Je vous propose un petit schéma qu'on utilise beaucoup et qui est un petit peu notre support pour réfléchir et concevoir des modèles de formation. Et qui est aussi la manière dont on est outillé pour intervenir là où on intervient sur des évaluations d'accompagnement d'acteurs, etc. Donc, c'est un modèle, vous allez peut-être trouver ça ésotérique, mais qui vient de l'ergonomie. Certains qui sont privilégiés et qui ont eu l'intervention de Simon Flandin et Patrick Picard dans leur académie trouveront ça un peu moins ésotérique, mais voilà. Ce modèle, il nous aide à comprendre que n'importe quelle personne qui travaille, et oui, enseignant, c'est un métier, n'importe quelle personne qui travaille est en tension et de manière inconciliable entre ce qu'on lui demande, donc la prescription, et ce que ça lui demande. Il y a un conflit de logique. C'est-à-dire que plus on m'en demande, plus ça m'en demande. Et à un moment donné, si je veux tenir dans le métier, il faut bien que je trouve des manières de tenir. Alors oui, on me demande de m'occuper des élèves en risque de décrochage, comme on me demande de m'occuper des élèves en situation de handicap, comme on me demande de m'occuper de. Mais qu'est-ce que ça me demande, moi, dans ma classe, avec, je sais pas, mon double niveau CM1, CM2, mes 35 élèves, et puis le manque de temps pour travailler collectivement, et voilà. Si on ne s'intéresse pas, dans les moments de formation, dans les moments de travail collectif qu'on arrive à instaurer en tant que pilote, responsable, chef d'établissement, formateur, directeur d'école, que sais-je, si on ne s'intéresse pas à ça, on s'expose au risque que la formation soit plus vécue plutôt qu'investie par les personnes auxquelles on l'adresse. Donc, s'intéresser aux préoccupations, aux tensions, aux compromis que font les personnes qui travaillent là où elles travaillent, c'est aussi comprendre que leur activité, c'est pas simplement ce qu'on voit, leurs actions. Si on va observer un enseignant dans la classe, on voit ce qu'il fait. C'est pas pour ça qu'on comprend forcément son activité. C'est-à-dire tous les choix qu'il fait à un temps T du cours, entre telle chose et telle chose, dans la complexité de la situation, en tenant compte de l'état d'excitation des élèves, en tenant compte de ce qu'il a préparé à l'avance, en tenant compte de. Et donc, s'intéresser à l'activité des personnes qu'on veut former, c'est aussi essayer avec elles de leur faire verbaliser, au-delà du visible de leur action, tout ce qui en fait la complexité et ce qui guide leur choix à un moment précis de leur travail. Et s'intéresser à ça, c'est bien s'intéresser à la question de l'efficacité, mais une efficacité qui est double. Une efficacité objective, c'est-à-dire comment je fais le boulot pour lequel je suis payé, mais aussi une efficacité subjective, c'est-à-dire est-ce que moi, je suis satisfait de mon travail? Et du coup, l'idée aussi, en formation, d'instaurer des espaces où on peut débattre des critères du travail bien fait, c'est aussi donner un espace qui contribue à la santé des professionnels. Quand je dis santé, c'est explicitement que j'emploie ce mot-là et s'intéresse à leur santé et à leur pouvoir d'agir. À leur pouvoir de transformer leur situation. Tout ce qu'on a dit sur l'évaluation menaçante pour les élèves, on peut s'interroger dans nos fonctionnements ordinaires de notre système éducatif sur à quel moment aussi l'évaluation et le regard de l'autre, du supérieur hiérarchique ou des collègues, il peut être aussi menaçant sur mon activité. Et comment on peut instaurer des espaces suffisamment confiants, suffisamment sécurisés pour que ce qui a vraiment à travailler, on puisse s'autoriser à le faire. Voilà. Je vous renvoie très très vite ces éléments-là, mais ça me semble assez fondamental, assez essentiel. À partir du moment où on veut amener de la transformation professionnelle, on a besoin de tenir compte de ça. Voilà. Alors maintenant, si on repart sur le parcours de formation magistère, alors je ne sais pas si tu veux l'introduire, juste dire que c'est un parcours de formation hybride, parce qu'il y a une forte prescription de l'institution pour créer de la formation à distance. La manière dont on a accepté de s'inscrire là-dedans, c'est bien de penser de la formation hybride, c'est-à-dire de se dire peut-être qu'à certains moments, c'est pas nécessaire d'être tous là en même temps dans la même salle pour regarder une vidéo. Peut-être qu'on peut le faire chez soi, mais aussi peut-être qu'on peut le faire dans un espace collectif, dans un établissement. Enfin, rien ne... Ça peut être intéressant de regarder une vidéo aussi ensemble. Mais en tout cas, ça peut être intéressant d'avoir ces outils à disposition en ligne. Mais c'est bien aussi réfléchir à comment on articule ces temps où des personnes vont se confronter à du contenu avec des temps collectifs animés par des personnes en capacité de les animer. Et je pense qu'il faut se sortir de l'illusion que les gens vont s'auto-former tout seuls en ligne, parce que ça oblitère complètement quelque chose qui est essentiel à l'apprentissage. On le dit pour les élèves, c'est aussi valable pour les adultes, c'est apprendre, ça se fait toujours dans un espace collectif qui a beaucoup de mal à se créer dans des classes virtuelles. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des vidéoconférences, mais c'est compliqué d'instaurer un espace de confiance et de débat et d'échange dans ces espaces-là. Voilà.
Et puis peut-être pour dire un petit mot de plus par rapport à ce schéma, l'idée c'est que très souvent aujourd'hui, la formation, en tout cas la formation institutionnelle telle qu'elle est pensée, elle est réellement pensée en termes d'efficacité objective, c'est-à-dire comment est-ce qu'on est en conformité par rapport à la prescription, c'est-à-dire que très souvent ce qui nous redescend, c'est ce qu'il faut faire. En revanche, la question du comment est-ce qu'on s'y prend pour le faire, cette question-là, elle est en général laissée aux acteurs de terrain. Voilà. Donc, peut-être que j'avance un petit peu par rapport aux questions, mais l'idée d'un parcours, enfin une des préoccupations qu'on a en tête quand on propose un parcours de formation hybride tel que celui qu'on propose, c'est réellement de penser aussi à tout ce qui relève de l'efficacité subjective, c'est-à-dire ce que ça me demande, et puis aussi peut-être ce que aujourd'hui je n'arrive pas à faire mais que j'aimerais faire. Voilà, et comment est-ce que dans un espace collectif, on va pouvoir en parler pour voir ensemble comment est-ce qu'on peut avancer là-dessus. Voilà. Mais peut-être, enfin, si on veut, c'est clair qu'on peut parfaitement parler de ce parcours de formation pendant une heure, mais l'idée c'est peut-être plus de vous laisser amener vos questions pour qu'on rentre par ce qui vous interroge dans ce parcours de formation. Voilà, donc on essaye de... plus de prendre vos questions, et donc c'est Baptiste qui est au micro, qui a bien voulu prendre le micro pour nous.
Et on le remercie beaucoup.
Donc, concernant notre groupe de réflexion, une idée nous est venue spontanément sur cette proposition de parcours de formation, qui serait de le proposer dans le cadre du conseil école-collège, pour faire le lien entre justement les professionnels du primaire et du secondaire, puisque on voit bien, à travers la vidéo d'amorce, les préoccupations quant au décrochage scolaire du primaire. Ce qui nous interroge, c'est pourquoi pas de témoignage du secondaire qui nous permettrait aux stagiaires de se sentir concernés si on fait venir des stagiaires du secondaire. Après, nous sur les points qui nous ont semblé aussi intéressants, c'est la place où on met les heures justement non en présentiel. Peut-être que les mettre de part au centre de deux temps en présentiel pour qu'il y ait un premier temps où justement les stagiaires puissent se rencontrer, créer des binômes de travail et s'approprier les supports de travail en hors présentiel, après ensemble, puisque à un moment vous marquez travail en binôme pour les 3 heures à distance. Donc ça nous semblait intéressant, et ça nous semblait du coup, dans cette idée du conseil école-collège, ça nous semblait intéressant d'aller jusqu'à accompagner les stagiaires dans des propositions d'actions concrètes héritées de la mise en réflexion des supports que vous avez proposés et voir, soyons fous et très optimistes, dans les moyens mis à disposition, qu'on puisse les accompagner et les suivre l'année N+1 dans la mise en œuvre de leurs propositions d'expérimentation. Donc en tout cas, un travail que unanimement on juge remarquable ce que vous proposez. Et les parents, par contre, aussi, qui nous manquaient aussi. La petite vidéo d'accroche. Parce que effectivement, même si là, on questionne beaucoup sur le travail dans la classe, hein, pour l'action à l'intérieur, des pratiques dans la classe, à un moment donné, comme on est dans le titre « Comment aider les élèves qui n'entrent pas dans les apprentissages », le facteur parent va devoir être pris en compte. Et que même si dans les exercices, on n'inclut pas forcément la question de l'apprentissage à la maison des devoirs, ne pas oublier de les citer, parce qu'on a tendance rapidement à les squeezer de la démarche. On constate, nous, hein, qu'on peut vite les squeezer si on ne les met pas de visu en présence.
Je vais peut-être répondre sur la question des parents. Enfin, on a notre collègue qui travaille sur la question des parents, qui va peut-être produire un parcours aussi sur la question de la relation école-famille qui est présente dans la salle. Mais effectivement, c'est une dimension... La question, c'était se centrer sur un objet donc qui est suffisamment restreint, mais qui n'exclut pas effectivement des développements sur d'autres dimensions.
Alors, je vais même aller plus loin, c'est-à-dire que dans la vidéo d'accroche, la première vidéo d'accroche qu'on avait faite, il y avait un certain nombre de réponses de parents, c'est-à-dire que sur ce même lieu de Schœlcher, moi j'ai conduit un atelier avec des parents d'élèves, et on leur avait posé la question, pour vous, le décrochage, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'un décrocheur, etc. Et on a eu des réponses absolument extraordinaires et extrêmement intéressantes. Et au départ, je les avais intégrées à la vidéo d'accroche. Et puis, quand on a travaillé en équipe, on va dire que choisir, c'est aussi renoncer. Et il a fallu qu'on se centre, parce que on avait un format. Alors j'en profite pour répondre à la première question, pourquoi le premier degré? Ben parce que ce parcours, ça correspond à une demande de la DGESCO, et les parcours magistères, l'an dernier, c'était que le premier degré. Donc voilà pourquoi le premier degré. Et effectivement, quand on dit que c'est un parcours qu'on va pouvoir modifier, effectivement, il faut qu'on rajoute des paroles du second degré. Donc pourquoi pas, on a vraiment là des matériaux qui sont extraordinaires sur qu'est-ce que c'est que le décrochage pour les familles, et qui montrent vraiment qu'il y a un décalage entre les enseignants et la représentation des parents. Je veux dire, notamment, alors pour l'anecdote, hein, mais quand j'ai posé la question aux parents, c'est quoi le décrochage scolaire? Eh bien, c'est quand les profs sont absents parce qu'ils ont peur de venir faire cours à nos enfants. Hein. C'était ça la réponse. Et ouais. Donc je veux dire, là on se rend bien compte qu'il y a un décalage énorme. Donc voilà, on a un travail extraordinaire là, mais voilà, on est en train de construire aussi un parcours donc sur la relation école-famille en lien avec le décrochage. Donc ces documents-là, finalement, on les intégrera là, où on exploitera réellement. On savait que ici, le choix qu'on avait fait, c'était d'être finalement dans la classe, au cœur des pratiques, et donc on était obligé de centrer. Après, pourquoi pas d'abord du présentiel. Là, c'est pareil. On était très contraints par les formats par rapport au cahier des charges que nous donnait la DGESCO. Après, moi, ce qui me rassure par rapport à ça, c'est que vous êtes en train de vous projeter dedans et que vous dites, on se dit que dans le cadre de la liaison école-collège, etc., ça signifie qu'une des fortes préoccupations qu'on avait, nous, c'était de dire le formateur, il est formateur. Faire des formations, c'est son métier. Donc, il faut qu'il y ait une vraie marge de liberté. Quand il regarde ce truc-là, faut à la fois qu'il se dise pas, j'ai devant moi une espèce de montagne immonde dont je vais pas quoi savoir faire. Mais en même temps, faut pas non plus qu'il se dise, non mais c'est quoi là, ils m'ont mâché le travail, moi je mets leurs pantoufles et puis je vais dedans, je n'ai aucune marge de liberté. Donc, un des gros enjeux, c'était vraiment de respecter, à la fois le travail du formateur pour qu'il puisse s'en emparer, se l'approprier et en faire ce qu'il veut en faire, quoi. Voilà. À la fois le formateur, mais en accord avec son pilote aussi, hein, bien entendu. Voilà. Et donc, peut-être du coup j'y viens sur la, parce que l'idée c'était hein, quels sont les principes de conception. Donc, dans ce que vous êtes en train de dire, moi un des premiers principes de conception que j'entends, c'est celui de l'appropriabilité. Donc qui est une vraie question qu'on s'est posée quand on a conçu ce parcours. Est-ce que ce parcours est appropriable dans le sens, alors appropriable de deux façons, hein, à la fois du point de vue de la technique et appropriable du point de vue de l'éthique et puis appropriable du point de vue des contenus, quoi. Est-ce que les gens se projettent dedans avec cette idée aussi que dans l'appropriabilité il y a est-ce qu'il peut entraîner du développement professionnel moyennant bien entendu qu'on y mette ce qu'il faut dedans, c'est-à-dire notamment un accompagnement, quoi. Voilà. Et ça pose la question, bien entendu, de le formateur est-il en capacité de conduire cet accompagnement sur un an, sur deux ans, voilà. Bah, alors peut-être, ouais, au niveau des critères de conception, du coup, on va peut-être développer de manière un petit peu technique. C'est vraiment la formation hybride hein, qui nous a amené à penser ça, avec l'idée qu'il y a trois grands temps en fait quand on conçoit un parcours de formation. D'abord prévoir la formation, c'est-à-dire se poser la question de quelle est la commande, quels sont les moyens que j'ai pour la commande. Cette commande, on va la mettre à notre sauce. Et donc là-dedans, qu'est-ce qui est négociable? Et qu'est-ce qui ne l'est pas? Puis à partir de là, on fait un cahier des charges et c'est là qu'on commence à faire les premiers renoncements, justement sur on va pas tellement pouvoir parler du climat scolaire, on va pas tellement pouvoir parler de la question de des identités, on va pas pouvoir parler de à quoi on a renoncé, donc la question de on va essayer de se centrer sur aider, faire progresser. Il y a des mots qu'on va pas employer, mais en même temps du coup on va pas le dire, puisque par exemple c'est volontairement qu'on n'a jamais employé le mot mérite, c'est jamais volontairement qu'on n'a jamais employé le mot réussir. Voilà, il y a des choses comme ça qu'on a dégagées. Et puis, en même temps, c'est parce que, voilà, dans le cahier des charges, on a réduit pour que ça puisse rentrer. Ensuite, arrive le moment de la conception. Hein, comment est-ce qu'on conçoit cette formation par rapport au but qu'on poursuit, par rapport à nos enjeux, par rapport aux tâches qu'on va avoir. Et par rapport à ça, on a vraiment trois critères qui nous semblent importants. Le premier critère, c'est le critère de l'utilité, c'est-à-dire finalement quels sont les besoins auxquels répond ce parcours, avec en arrière-plan quand même l'idée que un adulte n'est prêt à se former que s'il trouve une réponse à ses problèmes dans sa situation. Hein, ça c'est une première chose, et l'idée aussi que tant qu'il n'a pas été satisfait une première fois, le besoin ne connaît pas son objet. C'est-à-dire que on a eu beaucoup de discussions, notamment avec des pilotes, nous disant en fait le besoin il est là. Et puis quand on va discuter avec les équipes, le besoin ressenti, il est pas du tout là. Et il y a ce qui signifie qu'il faut à la fois répondre aux besoins, mais aussi aux attentes. Et donc là, il y a un double enjeu qu'on fait rentrer donc dans ce critère d'utilité, c'est-à-dire qu'on essaye vraiment de prendre en compte à la fois les attentes et ce qu'on repère comme étant des besoins, hein, puisque les pilotes ils peuvent se tromper aussi d'ailleurs hein, quand ils disent le besoin il est à tel endroit, voilà. Le deuxième critère c'est celui de l'utilisabilité. Donc on en a parlé, c'est-à-dire finalement est-ce que ce parcours on va pouvoir le mettre en œuvre avec les moyens qu'on a finalement. Alors à la fois le formateur, est-ce qu'il va pouvoir le mettre en œuvre avec les moyens qu'il a, mais est-ce que les stagiaires aussi après pourront s'en saisir avec les moyens qu'ils ont. Voilà.
Ça comprend y compris les aspects matériels de la situation de formation.
Et ce matin,
voilà, par exemple, hein, quand on a des soucis de Wi-Fi parce qu'il y a trop de monde qui se connecte avec le Wi-Fi pour voir des vidéos, enfin, voilà, ça fait partie de l'utilisabilité de ce qu'on a prévu.
Voilà, ce matin, clairement, on a eu un problème au niveau de l'utilisabilité. On n'avait pas anticipé et ça a posé problème. Hein. On s'en est sorti quand même, mais voilà. Troisième point, la question de l'acceptabilité ou de l'appropriabilité, c'est-à-dire, ben, est-ce que ce que je propose, ça ne pose pas de problème d'un point de vue éthique, d'un point de vue déontologique, c'est-à-dire, est-ce que ça va pouvoir être accepté par les professionnels à qui je propose ça ? Et c'est également une question qui est importante.
Moi, je ne comprends pas l'intitulé du présentiel, si vous voulez bien me l'expliquer. Le temps, donc après, on a débattu dans le groupe sur le travail à distance, sur les préacquis, prérequis, sur cette idée d'appropriation, etc. Voilà, avec des idées différentes, mais bon, qui semble faire quand même consensus. Sur ce deuxième temps, voilà, moi, je pense que je ne comprends pas l'intitulé.
C'est-à-dire.
Je vais vous dire là où je me trouve. Donc, dans l'académie de Dijon, par rapport à la problématique du décrochage large, avec les différents travaux qui peuvent être conduits soit par une équipe de formateurs qui interviennent dans le registre de la prévention, avec des binômes, un groupe qui a 5 ans d'existence, qui va sur des chantiers qui répondent à des demandes de formation, soit de pilotes ou d'équipes, et qui vérifient donc à la fois les besoins, les attentes, etc. On a cette équipe existante. On a aussi différents plans et un plan qui vient d'être validé par le recteur. Il y a les travaux des corps d'inspection, des PTA, etc. Et bon, parmi les groupes de PTA, il y en a un qui traite, enfin qui se penche sur la différenciation pédagogique, parce qu'on pense que la prévention du décrochage, elle est d'abord à trouver au sein de la classe, dans les pratiques de chaque enseignant, etc. Donc c'est une entrée, et on s'est dit, voilà, la différenciation pédagogique ou la pédagogie différenciée, on l'a tous dans un coin de la tête, mais après, il faut qu'on retravaille, comment on la met en œuvre, etc. Donc on retravaille là-dessus. Et quand je lis ça, donc je vois temps présentiel, regard croisé pour repérer les pratiques ordinaires différenciatrices. Donc ça me fait penser à la pédagogie différenciée. Je me dis que c'est une des entrées qu'on a trouvées dans l'Académie de Dijon pour contribuer à réduire le décrochage scolaire. Dans le premier degré, singulièrement, enfin pas uniquement, mais déjà dans le premier degré.
Juste pour vous répondre sur ce mot différenciateur ici. Il n'a pas du tout l'aspect positif que vous lui donnez en parlant de pédagogie différenciée.
Bon.
Il parle des pratiques différenciatrices, c'est-à-dire qui produisent de la différence entre les élèves.
D'accord.
D'apprentissage.
Parce que voilà. Nous, c'était justement sur ce constat. Nous, l'entrée, elle est autre. C'est-à-dire que voilà, il faut qu'on s'attaque à cette différenciation pour trouver les leviers. Et donc après, c'est pour ça que je ne comprenais pas.
Mais y compris dans la question de la pédagogie différenciée. On peut mettre en œuvre de la pédagogie différenciée. Si on ne se pose pas cette question de est-ce que ma pédagogie différenciée va vraiment permettre le progrès de tous mes élèves, ou est-ce qu'elle va créer encore plus de différenciation, enfin, c'est bien de ces...
Voilà. C'est pour ça que ça me faisait...
Du coup, c'est bien dans ce temps collectif, c'est bien instaurer le débat là-dessus. Et parler du quotidien, et y compris des pratiques les plus ordinaires. Et je pense que les collègues peuvent assez rapidement les mettre sur la table. Je veux dire, quand on a une pratique qui est, somme toute, très très ordinaire depuis la maternelle, qui est de poser une question à l'ensemble de la classe, et puis d'interroger le premier élève qui lève la main, on est dans une pratique complètement ordinaire qui est extrêmement productrice de différence entre les élèves. Donc, prendre cette pratique-là, l'interroger collectivement et se dire « Mais comment on pourrait faire autrement ?» Voilà, avec, je sais pas, des trucs tout bêtes, hein, mais moi, comme instite dans ma classe, après une inspection, mon inspecteur qui me dit « Et pourquoi vous ne demanderiez pas aux enfants de prendre juste 30 secondes pour écrire la réponse sur leur ardoise ?» Comme ça, chacun aurait le temps de réfléchir, d'écrire, et vous ne seriez pas obligé d'interroger le premier qui... voilà, soit dit en passant, c'est des choses comme ça que j'ai en tête, mais qu'on a essayé de mettre en œuvre aussi avec vous. Enfin, c'est bien des petites choses, des petits gestes aussi quotidiens comme ça, le réel, l'ordinaire du métier qu'il s'agit de mettre en débat et de réfléchir dans ce temps-là.
Mais dans l'intitulé, voilà, moi, ouais. Par rapport au stade, à l'avancement, ça m'a posé question.
Oui, alors, l'idée, c'est que, justement, sur ce temps en présentiel, donc, il y a une présentation dans les 3 heures à distance de ce que c'est que la différenciation active et la différenciation passive, qui sont des différenciations différenciatrices, justement. Et donc tout le contraire de la diversification, hein, parce que la diversification pédagogique, c'est autre chose. C'est pas quelque chose qui crée de la différence, justement. Mais on sait que les enseignants, pour la plupart, ont baigné dans cette idée de « il faut différencier », etc. Et très souvent, ce qu'on observe dans les classes, c'est que les différenciations sont différenciatrices. Voilà. Donc, ces 3 heures à distance, à un moment donné, elles ont besoin d'être réinjectées dans un temps avec un formateur. D'abord, une première chose, c'est que on l'a testé avec des enseignants. On a eu des larmes. C'est-à-dire que sur le temps à distance, quand il est pratiqué seul, il y a des enseignants, des professeurs des écoles qui se sont effondrés. C'est-à-dire qu'ils d'un seul coup se disent mais qu'est-ce que j'ai fait ? Donc je veux dire, par rapport à ça, là nous on a mis un point de vigilance pour le formateur pour dire attention, c'est d'abord mieux de travailler en binôme, et puis il faut bien prévenir aussi que l'idée ça n'est pas de créer de la culpabilité professionnelle, c'est bien de remettre collectivement sur le métier ce qui appartient au métier. Hein ? L'idée c'est ça, c'est voilà. Et ça se fait en présentiel. Hein, ces questions-là, ces choses-là, ça se gère en présentiel. Voilà. Mais c'est pour ça que la question de est-ce qu'on commencerait pas par une phase présentielle, c'est une vraie question. Si on l'avait conçue dans le meilleur des mondes, vraisemblablement qu'on aurait commencé par un temps en présentiel, effectivement, pour préparer ce choc, parce que pour un certain nombre d'enseignants, c'est un véritable choc. Hein, de découvrir qu'en fait, quand on différencie, quand on est différencié, mais en fait, on a des pratiques différenciatrices qui créent des inégalités scolaires.
Est-ce que vous avez prévu, notamment, enfin, ou serait prévu, ou est-ce qu'on peut prévoir en tant que prolongement, c'est-à-dire un temps après l'expérimentation, parce que forcément, vous le dites, quand il y a un regard croisé sur des pratiques, il y a forcément des chocs qui se créent, il y a forcément des pratiques qui évoluent. Des pratiques qui n'évolueront pas, et donc qui nécessitent un retour. Et pour l'avoir vécu après, et ne pas avoir de retour, on va vers le retour du naturel, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que ces pratiques qui nous ont apparu comme totalement séduisantes ou totalement novatrices, et qu'on va s'empêcher de mettre en pratique dans son quotidien, dans sa classe, au bout d'un moment, on va s'apercevoir qu'elles perturbent aussi totalement un fonctionnement qu'on a depuis très longtemps, et puis que les inconvénients... On va se retrouver seul dans la gestion de ces inconvénients. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui.
Il y a des trucs tout bêtes. Par exemple, si je prends un exemple, j'en parlais tout à l'heure à mes collègues. Si on prend par exemple le lecteur électrique de Guagou, je ne sais pas si tout le monde connaît, mise en place ça, c'est très séduisant. En fait, une formation sur là-dessus, tout le monde est séduit par rapport à l'apport que produit cet ouvrage. On le met en place, et puis au bout d'un moment, vous allez dans les classes, et moi j'ai des collègues qui m'ont dit « Ouais, c'est vachement bien, sauf que j'ai arrêté, parce que ça ne rentre pas du tout dans les textes, les corpus de textes qui sont choisis. » Ça va pas du tout avec ma classe. Donc après, j'arrête tout. Vous voyez, donc je veux dire, c'est oui. Ce qui est bien, enfin, dans le terme de formation, c'est un retour. Est-ce qu'il serait possible après encore d'ajouter un temps de formation qui serait un retour et, j'ai envie de dire, l'aide au sens où Stéphane disait tout à l'heure, c'est-à-dire l'accompagnement, l'aide véritablement sur le terrain ou
le collègue. Je compléterai.
Je suis intimement persuadé que vous avez complètement raison. C'est-à-dire que, en plus, sur des questions aussi lourdes que celle-là, il y a marqué 6 heures dans le parcours. Enfin, si on veut conduire un travail de longue haleine sur une circonscription, sur un établissement, sur un bassin, que sais-je, sur ces questions-là, il est bien évident que c'est pas en 6 heures qu'on va solder le problème.
Et puis, c'est pas 3 heures, c'est 3 ans hein, de ouais, travailler.
Voilà. Après, pour moi, c'est bien une question de. Comment aussi localement, et là c'est là on va revenir sur les questions de pilotage, on construit des priorités de travail qui permettent d'organiser un plan de formation et qui soit à des échéances, pas simplement de 6 mois, et où on quelque part, on arrête le zapping formatif. Alors moi, je parle pour le premier degré, ce que j'ai vécu, où on a 3 heures d'animation pédagogique sur la lecture, puis après 3 heures d'animation pédagogique sur les maths, et puis après 3 heures d'animation pédagogique sur le PS, mais qui concrètement, enfin, nous amène pas à faire bouger grand chose sur le long terme. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut prioriser pendant 3 ans? Alors, sur cet objet-là ou sur un autre, pourquoi pas les devoirs à la maison, l'évaluation, prioriser pendant 3 ans et mettre tous les espaces collectifs de rencontre, de formation, et y compris l'accompagnement de l'IUN, du CPD directement dans les classes, sur ces objets-là. C'est bien comment on articule tous ces temps-là. Voilà, et quand il y a une organisation du pilotage pour ça dans une circonscription, y compris dans un contexte de raréfaction des moyens de formation, on arrive à faire des choses. Au même moment où on supprimait tous les moyens de formation et de remplacement pour l'éducation prioritaire dans l'académie ces dernières années, où on n'avait plus de remplacement pour faire des stages ZEP, on a pu monter une action formation-recherche qui a duré 4 ans sur la question des devoirs à la maison et du travail personnel là où je bossais. Parce qu'il y a eu une volonté commune de prioriser par les pilotes, le chef d'établissement et l'UN, ce travail-là. Et du coup, ça a pu se faire. Voilà.
Donc, moi, il me semble qu'effectivement, dans votre question, il y a deux choses. Hein. Il y a cette question du choc des temporalités, et la temporalité de l'institution, et puis la temporalité du développement professionnel, effectivement. Et par rapport à ça, il faut un pilotage de proximité très fort, ce dont Stéphane est en train de parler. Mais il me semble qu'il y a une autre chose aussi, c'est que le développement professionnel, là, je reprends le langage de l'ergonomie. En ergonomie, il est conditionné par deux choses. C'est à la fois l'idée d'efficacité, d'efficience, mais aussi l'idée d'économie, avec l'idée de, ben, finalement, cette transformation que je vais opérer, qu'est-ce qu'elle me coûte ? Et qu'est-ce qu'elle me coûte ? La même chose de manière objective, c'est-à-dire en termes de moyens, de temps, de fatigue, etc. Mais aussi, qu'est-ce qu'elle me coûte de manière plus subjective, c'est-à-dire en termes de qu'est-ce qu'elle me laisse comme temps pour faire mes autres tâches aussi. Voilà. Ça revient aussi à se poser la question du petit pas. Hein. Le développement professionnel, c'est aussi la question des petits pas. Et ça revient aussi à ce qu'on disait un petit peu plus tôt, c'est aussi travailler sur l'existant plutôt que prescrire l'idéal. Le développement professionnel, c'est aussi tout ça. Donc il y a la temporalité, et il y a aussi, quand on conçoit la formation, se poser la question de quel va être le rapport coût-efficacité, finalement. Voilà.
Je vais tourner toujours, je pense, un peu autour du même sujet, mais peut-être un peu autrement. Quand vous avez conçu ce parcours, la question me vient en vous écoutant, en fait, est-ce que, je dirais, vous l'avez conçu avec quel préalable en termes de public cible ou de... Enfin, vous parlez de maturité ou de développement professionnel, individuel ou collectif? Est-ce que vous l'avez conçu pour être proposé à l'échelle, vous parlez de circonscription ou d'établissement ou de bassin, ou est-ce qu'il y aurait un sens à la proposer dans le cadre d'un plan académique de formation, formation qui regrouperait des personnes volontaires issues, pourquoi pas en intercatégorie, enfin non, c'est plutôt un public enseignant, là j'entends bien, mais je ne sais pas si je me fais bien comprendre, quel serait pour vous les conditions optimum, hein, donc les préalables qui la rendraient plus, effectivement, qui rendraient ce parcours de formation plus efficient, plus économique.
Mm-hmm. Disons que l'objectif, c'est vraiment j'ai envie de dire que l'objectif de cette formation, c'est vraiment de se poser la question pour passer d'un problème des publics à un problème des pratiques. Hein. Y a aussi cette idée-là derrière. Et donc, à partir de là, l'idée, c'est que les contextes de travail des professionnels ont forcément une importance dans la partie... Si on reprend peut-être le schéma... Le plan avec présentiel, tout ça, là.
Ah, le plan, ok.
Ouais. si on revient ici, la partie prolongement possible, je pense que d'abord sur le présentiel, les conditions pour pouvoir réellement échanger, avoir des traces de l'activité et être réellement au cœur des pratiques, des préoccupations, ces conditions-là, elles se construisent. Mais alors certains ergonomes disent que on ne peut parler du travail que si on est entre professionnels qui travaillent ensemble. Moi, j'en suis pas persuadée. Par contre, effectivement, il faut construire les conditions de la confiance, c'est-à-dire il faut construire le collectif pour pouvoir échanger sur le travail. Et pour échanger sur le travail, à certains moments, il va falloir avoir des traces de l'activité réelle pour pouvoir parler des préoccupations, des compromis qu'on fait, de en quoi ça nous satisfait pas, etc. Donc, finalement, j'ai envie de dire quelle est l'assemblée qui va convenir pour ça. C'est pas tant ça qui est important, c'est quelles sont les conditions qu'on va aménager dans cet espace-là pour pouvoir engager ce travail-là et quel est le temps qu'on va y consacrer, parce qu'un collectif, ça se construit, ça se décrète pas. C'est pas parce que, de la même façon, enfin je veux dire par effet miroir, dans la classe, c'est pareil, hein. Quand on met quatre élèves ensemble et qu'on leur dit « aujourd'hui on va travailler en groupe », si c'est la première fois de l'année, je veux dire, il y a peu de chances pour que le travail il soit efficace, hein. Faut être clair, il va falloir conduire plusieurs fois, puis peut-être aussi qu'il faudra se poser la question de la stabilité des groupes, parce qu'on apprend aussi à travailler avec les autres. Enfin, voilà, on va pas faire un cours sur sur le travail de groupe dans la classe, mais c'est la même chose dans cette situation là, quoi. Peut-être parler de l'expérience de Saint-Priest ou.
Ouais, enfin, là où je travaillais, moi j'étais coordonnateur de réseau, donc forcément on raisonnait à l'échelle d'un réseau école-collège. Mais à chaque fois, en fait, le souci de l'inspecteur du premier degré, c'était aussi de pas faire qu'il y ait des formations à deux vitesses sur sa circonscription. Donc à chaque fois, le déséquilibre à trouver entre l'attention sur les deux écoles avec le collège et puis mais en même temps faire groupe avec les autres écoles, donc il mixait des temps où les écoles en ZEP étaient plutôt avec le collège, avec des temps où il y avait de la réflexion sur des secteurs d'école primaire. Voilà, après enfin j'allais dire chaque situation est adaptée au contexte de travail, à la manière dont on perçoit l'équilibre du rapport entre les différents établissements sur un est-ce que le travail est possible avec le collège ou pas. Enfin il y a plein de facteurs qui font que ça peut pas être normé dans ce qu'on propose, même si le parcours a été conçu globalement pour des enseignants du premier degré à l'échelle d'une circonscription, mais ça peut recouvrir des réalités tellement variables que c'est bien la question. Voilà. Et c'est bien, à mon avis, dans la phase de négociation et de conception de la formation que ça, c'est à définir. C'est-à-dire qu'il doit y avoir vraiment un vrai travail entre les pilotes, les responsables et les formateurs éventuellement extérieurs qui viennent pour définir quelle est la bonne échelle, quel est le bon groupe de travail. Enfin, cette phase-là de conception, elle est souvent un peu minorée dans le travail, mais voilà, c'est aussi des espaces intermédiaires entre formateurs extérieurs, conseillers pédagogiques de la circonscription, IEN, le chef d'établissement, tous ces espaces-là intermédiaires, ils devraient aussi servir à ça, quoi.
Et alors peut-être juste, je rajoute une petite chose, mais c'est que si certains parmi vous ont envie d'expérimenter sur une échelle ce parcours, on est intéressés, nous, pour suivre l'expérimentation, hein, très clairement. Voilà. Et puis, ça signifie aussi qu'on vous réinvitera derrière pour venir en parler. Alors, très clairement, l'évaluation de l'impact d'un tel dispositif ne nous appartient pas. Elle appartient aux pilotes. Voilà. Donc.
Juste deux mots quand même, parce que ça a fait débat, notamment moi j'ai présenté un autre parcours magistère qu'on a conçu dans une réunion à la DGESCO. La responsable du bureau formation m'a dit, mais vous n'avez pas une espèce d'évaluation écrite à la fin ? Moi, j'ai été très clair avec elle. Si c'est la demande explicite pour que le parcours soit validé, peut-être qu'on en fera une. Mais enfin, c'est pas du tout notre conception de l'évaluation. Et notre conception de l'évaluation, c'est pas non plus une évaluation qui tombe d'en haut. Notre conception de l'évaluation, c'est accompagner les acteurs, les professionnels eux-mêmes, à regarder des traces successives de l'évolution de leur activité. C'est ça, évaluer. Ou alors, sinon, on est dans le contrôle. Évaluer, c'est regarder la valeur de ce qu'on fait et l'évolution.
Donc, on sait alors, il y a quand même un contrôle.
C'est bien pour ça que là, on n'est pas sur un parcours magistère.
Donc, on fait l'usage que l'on veut, hein, on est bien d'accord.
Le parcours de formation est sur le site du Centre Alain Savary, vous n'êtes pas obligé de passer par magistère.
Oui, oui.
Et effectivement, on a eu énormément de débats, nous, quand on nous a demandé de faire des parcours de magistère sur ces questions-là. Ce sont vraiment des questions d'éthique professionnelle. Et donc, dans l'acceptabilité d'un parcours de formation, toutes les phases de contrôle et d'évaluation, elles posent problème.
Et puis, il y a encore une autre chose, c'est que c'est toujours cette question des temporalités, de l'immédiateté, etc. La transformation professionnelle, elle peut se mesurer à court terme, à moyen terme, à long terme. Et puis, il peut ne pas y en avoir. Voilà, nous, on est concepteurs et ça, finalement, quelque part, c'est vraiment le travail du pilote d'aller voir et d'aménager les conditions pour que ça entraîne du développement. Alors, moi, par rapport à ça, je suis très dubitative. Ça n'empêche pas que demain soir, à un moment donné, on vous demandera effectivement, finalement, qu'est-ce que vous retenez de cette formation. Mais entre le « qu'est-ce que vous retenez de cette formation ?»,« quels sont les manques ?», etc., c'est pas la même chose qu'une évaluation conformité avec « oui, je vais transformer un certain nombre de choses ». C'est-à-dire que... moi, il y a des formations dont je suis sortie en me disant « waouh, c'était extraordinaire » parce que l'orateur était quelqu'un d'extraordinaire. Voilà. Et mais par contre, au final, qu'est-ce qui m'en est resté ? Rien. C'est-à-dire que si on m'avait demandé à chaud « qu'est-ce que tu penses de cette formation ?», j'aurais dit « génial ». Voilà. Et puis par contre, 3 ans après, je me dis « qu'est-ce qui me reste de cette formation ?» Rien. Voilà. Donc, voilà. Quel type d'évaluation ? À quel moment ? Alors ça éventuellement, mais du coup, du fait que c'est au bout de quelques temps, je pense que c'est plus avec le pilote que ça se regarde. Voilà. Mais par contre, c'est vrai que cette idée de développement professionnel, nous on la prend vraiment en compte et en charge, j'ai envie de dire, dans notre conception, dans la conception initiale. Il est sur le site du Centre Alain Savary. Voilà, c'est ce que j'ai expliqué en fait sur Magistère. En fait, pour l'instant, il n'a pas encore été validé. Mais parce qu'il n'y a pas de commission de validation. Ils n'ont pas défini les critères et les indicateurs qui permettraient de valider. Et je crois qu'ils n'ont même pas encore désigné les personnes qui feraient partie de la commission. Voilà. Sachant que ces parcours, on devait les rendre pour fin juin, et c'est la raison pour laquelle on a décidé, nous, de les publier, parce que on voulait valoriser aussi notre travail, quoi, à un moment donné.
J'espère que je ne vais pas trop digresser, mais je trouve que dans les échanges, là, il y a des choses fondamentales en termes de formation qui sont passées et qui m'interpellent, et c'est ce que j'attends aussi d'une formation, qui m'aide à réfléchir, sur la question du public cible, effectivement, de la formation. Est-ce qu'on part d'un public volontaire? Mais après, ça questionne sur, en général, les volontaires et les concernés sont toujours les mêmes. Donc on laisse à la marge une masse de personnel qui finalement continue de vivoter selon le même mode. Si on fait un public désigné, qu'est-ce qui va assurer que ce public sera en mesure de se saisir? Si par exemple, avec les pilotes, justement, on prend un IUN de circonscription, un chef d'établissement, si on est dans notre idée du conseil école-collège, on dit, allez, cette école, ce collège, les enseignants de 6e, les enseignants de CM de l'école, hop, on met tout le monde dans le bateau, et on verra bien les unions qui vont en sortir derrière. Alors, dans la conception, déjà, ça questionne. Parce que si on prend que les profs volontaires, on reste à mieux. Et dans l'évaluation, moi, ce qui me questionne, c'est, spontanément, quand j'entends évaluation, j'entends plus-value. Et qui dit plus-value, c'est-à-dire qu'on a mesuré avant. Donc, on a mesuré sur un public déjà désigné. Sur la base de quoi? De besoins, d'attentes, comme tu le disais. Et également, la plus-value pour des actions qui ont été mises en place sur le bassin de Vichy avec la commission, on la voit sur les petits pas. Où, au départ, c'est une petite équipe dans un établissement qui se saisit. Parce qu'à un moment donné, ce qu'on lui a été donné en formation lui parle, et qu'après, c'est, comme on l'applique avec nos élèves, la transmission par les pairs. Et ça, comme, effectivement, en termes de mesurabilité, de quand, et c'est bien le problème et le paradoxe dans lequel, en termes de formateurs, on se trouve, c'est qu'institutionnellement, on va nous demander des comptes mesurables, chiffrables, pour qu'on puisse en rendre compte et faire remonter, alors que dans la réalité du terrain, c'est l'évolution des pratiques qui fera que, bien plus tard, les comptes vont changer.
Oui, je compléterai.
Voilà.
Juste sur la question du public, peut-être que je n'ai pas été assez explicite là-dessus, mais là, pour le coup, ça fait partie aussi de toute la recherche sur... qui est coordonnée, entre guillemets, par la chaire UNESCO sur enseigner au XXIe siècle, mais la recherche sur la formation montre que c'est bien la formation en établissement ou en école ou en circonscription où tout le monde suit et participe à un même collectif sur le lieu de travail qui a le plus d'impact. Voilà. Donc ça questionne effectivement tous les modèles de formation où des gens de tous les établissements de l'académie vont se retrouver pendant une journée ou deux. Il y a quelques années, c'était 5 semaines. Moi, je me rappelle, en sortant de l'UFM, on avait des formations de 5 semaines à l'UFM. Voilà. Mais là, c'est plutôt une journée ou deux. Mais ça a que peu d'impact. Et effectivement, la personne qui revient dans son établissement se retrouve très, très, très isolée.
Alors, cette question-là, effectivement, quand on a conçu le parcours, on se l'est posé puisqu'on savait dans quelles conditions ça allait se passer, les magistères. C'est-à-dire que l'IEN allait décider que tels enseignants seraient inscrits sur le parcours. Et d'ailleurs, c'était l'IEN qui inscrit, c'est l'inspecteur qui inscrit ses enseignants sur un parcours. Donc on savait qu'a priori, sauf dans certaines circonscriptions où ça se passe différemment, il y aurait un public désigné. Et on en a tenu compte dans une certaine mesure, c'est-à-dire que on a essayé de réduire beaucoup les écrits. Au départ, on avait plus d'écrits que de vidéos. On avait un certain nombre de textes qui étaient écrits, qui étaient longs. Et donc, ça nous a obligés à essayer d'être plus percutants, finalement, de se dire, on va avoir un public qui sera pas un public acquis. Voilà. Mais par contre, ça nous a aussi posé problème quand on a fait tester ce parcours, puisque, donc, on l'a testé avec des professeurs des écoles qui étaient volontaires, finalement, qui faisaient partie de notre réseau de connaissances. On l'a testé également avec des CPC, des conseillers pédagogiques de circonscription, qui ont accepté de jouer le jeu et qui, du coup, ont fait la formation en présentiel avec quelques professeurs des écoles qui étaient volontaires. C'est-à-dire qu'on l'a testé grandeur nature, mais on l'a testé avec des gens qui étaient volontaire. Voilà. Donc on se disait bien forcément que les retours qu'on avait, on a enregistré, on a fait en sorte d'avoir vraiment de recueillir vraiment des retours et puis on a retravaillé dessus par rapport à ces retours. Mais on se rendait bien compte qu'il y avait quand même une dimension qui était faussée, c'est qu'on n'était pas sur des publics qui étaient désignés. Voilà. Après, moi je pense vraiment à ce que dit Stéphane. Il y a aussi un effet collectif et un effet boule de neige. C'est-à-dire qu'à certains moments, on sait que quand dans un établissement, il y a un groupe d'enseignants qui se met à travailler, petit à petit, les autres regardent, se rapprochent. Enfin, voilà, dans une temporalité un peu longue, il se joue un certain nombre de choses qui font que petit à petit, on enrôle aussi les autres dans le travail. Voilà. Mais cette question du public cible, oui, c'est une vraie question. Hein.
Alors, je n'ai pas pu tout regarder au niveau de la formation puisque j'ai eu une coupure internet tout à l'heure. Donc, mes questions vont peut-être être stupides et dans ce cas-là, je m'en excuse. Mais est-ce que pour évaluer par rapport au travail, par rapport aux personnes qui pourraient donc suivre la formation, on ne pourrait pas à la fin émettre des grilles outils, notamment pour tous les décrocheurs silencieux, et permettre aussi de réfléchir, comme vous l'avez fait au niveau de la géographie et tout, sur toutes les consignes que nous donnons, de manière à avoir une trace après écrite, de voir ce qu'ils en font, et ça permettra de voir une plus-value, c'est-à-dire que si certaines personnes qui ne sont pas encore concernées utilisent ces outils, se les approprient, les remplissent ou pas.
Alors, je pense que c'est une super question que vous nous posez là. C'est-à-dire que là, finalement, on va toucher à l'aspect éthique et déontologique de la façon dont on a construit cette formation. quand on a conçu cette formation, pour nous, les élèves décrocheurs, finalement, sont les élèves... alors d'abord, on n'aime pas bien ce mot décrocheur, mais bon, on fonctionne avec, puisque l'institution nous l'impose. Sont les élèves qui nous obligent à réfléchir à comment est-ce qu'on rend les savoirs accessibles. Et finalement, ces élèves-là nous obligent à réfléchir pour tous. D'accord. De la même façon que l'éducation prioritaire, finalement, on dit que c'est le terreau de l'innovation, parce que c'est là que les difficultés sont peut-être les plus voyantes, mais elles nous permettent finalement d'avancer en pédagogie et en didactique pour tous. Voilà. Donc notre idée, c'est vraiment de réfléchir en termes de percevoir ce qui pose problème dans nos gestes pédagogiques et didactiques au sein de la classe, pas seulement pour les décrocheurs, mais pour tous, c'est-à-dire ce qu'on fait de manière ordinaire, hein, parce que je veux dire, les malentendus socio-cognitifs, les différenciations actives et passives, on est tous concernés et c'est dans l'ordinaire de nos pratiques. Donc c'est comment est-ce qu'on remet ça en cause, et c'est aussi comment est-ce qu'on réinterroge finalement un peu la norme, c'est-à-dire l'accès au savoir. On sait qu'il y a des élèves pour lesquels les savoirs scolaires très souvent sont enseignés de manière extrêmement normative. Et l'idée, c'est que peut-être les décrocheurs, ils nous amènent non pas à interroger les savoirs eux-mêmes, mais à interroger la normativité de la façon dont on les enseigne. Voilà. Et moi, là-dedans, la dimension évaluation, je ne vois pas quelle plus-value elle apporte. Voilà. Alors, peut-être que j'ai mal compris votre question, mais enfin, voilà.
Peut-être qu'une des dimensions évaluatives, elle est dans les prolongements proposés, c'est-à-dire la nécessité de pouvoir de temps en temps avoir des observations croisées. Et effectivement, quand on essaye une nouvelle manière de faire, on n'est jamais sûr que ça fonctionne pour tous les élèves. Et se donner des critères d'observation croisée de voilà, tiens, j'essaye ça, qu'est-ce que ça va provoquer sur les élèves, ça ne peut pas se faire tout seul. C'est-à-dire comment on aménage des temps aussi où on est deux dans la classe et où on peut s'observer réciproquement avec la question de la bienveillance de cette observation et de comment on l'installe. Toutes les expérimentations et le travail qui se fait dans certaines écoles avec les maîtres supplémentaires, c'est bien de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comment la plus-value de être deux, ça permet de s'observer faire et de regarder, voilà. Et je pense que après se doter d'outils pour regarder, je pense qu'ils sont à chaque fois à construire. Dans l'expérience qu'on a fait, nous, d'une action formation-recherche où on allait dans les classes entre les temps de formation sur 3 ans, et ça, c'est quelque chose qui a été, posé dès le départ par le formateur qui proposait cette démarche-là. Il est hors de question qu'on écrive quoi que ce soit quand on va dans la classe d'un collègue dans ce cadre-là. Pour lui, c'était la condition éthique, la condition de possibilité de pouvoir faire ses observations croisées. La condition éthique, c'était aussi qu'on vient au service de la question que se pose l'enseignant. Dire, ok, je veux bien qu'un collègue vienne dans ma classe, mais voilà, c'est pour m'aider à répondre à la question que je me pose moi. Enfin, il y a, vous savez, quand même, dans le métier d'enseignant, cet espace fermé de la classe, cette boîte noire de la classe, si elle reste fermée, c'est parce qu'il y a quand même un poids qui est extrêmement fort dans notre institution, du jugement. Enfin, on ne va pas revenir sur tout ce qui s'est dit à propos de l'évaluation. Si on veut ouvrir un petit peu cette boîte noire et pouvoir en parler collectivement, il faut vraiment, vraiment, vraiment penser cette question de à quelles conditions on peut l'ouvrir. Voilà. Et je pense que, est-ce qu'on peut écrire dans la classe d'un collègue ou dans ce cadre d'observation croisée? Est-ce que, il y a beaucoup de choses à réfléchir autour de ça.
Et peut-être aussi, alors je l'avais peut-être mal comprise aussi la question, mais moi il me semble que ce parcours finalement, c'est un parcours qui correspond à des apprentissages pour les enseignants de la, en parallèle, hein, les apprentissages des élèves. Et on a tendance à toujours mélanger les apprentissages et les évaluations, et du coup à jamais bien savoir si on est dans des situations d'apprentissage ou d'évaluation. Et je pense que ce parcours, c'est vraiment l'idée de se mettre dans la posture de réapprendre un certain nombre, de revisiter ces pratiques, et puis d'en imaginer des nouvelles ou de les transformer, etc. Donc l'idée, par exemple, d'observation croisée, soit peut-être de mettre une caméra au fond de sa classe où on se regarde et puis où après on va travailler dessus. Moi, il me semble que l'objectif d'un travail comme celui-ci, c'est vraiment dans une visée de progresser, mais pas dans une visée d'évaluer. Voilà. Mais peut-être aussi, moi, l'évaluation, c'est vraiment quelque chose qui me pose un problème énorme. Hein, je pense que ça s'entend, voilà. Voilà. Mais je trouve qu'on a trop tendance à confondre, à mélanger les temps d'apprentissage, les temps d'évaluation, et que voilà, faut qu'on sache aussi ce qu'on fait.
Il faudrait que tout produise de l'effet tout de suite.
On va s'arrêter puisqu'il est 17h. Juste un petit mot par rapport à demain. Demain matin, on commence directement par un temps d'atelier. Alors, donc, ce qu'on vous propose pour être un peu plus efficace, c'est peut-être de ne pas repasser par ici. Le temps d'atelier, ça nous intéresserait que ce soit avec les mêmes groupes que ceux du premier jour, parce que ces groupes-là sont donc des groupes pluricatégoriels. Hein. Et ce qu'on vous propose comme travail, c'est soit de repartir de ce parcours de formation et de vous dire comment est-ce qu'on pourrait se l'approprier pour travailler dessus, pour construire quelque chose, un parcours de formation à nous, dans notre contexte à nous, soit de réfléchir par rapport aux outils de conception dont on vient de parler à un parcours de formation qui correspondrait davantage à vos besoins dans votre espace de travail à vous.
Ou sur deux objets qu'on a travaillés, sur réfléchir à la question de l'évaluation en formation, comment on pourrait imaginer ça, ou sur d'autres problématiques, la question des devoirs à la maison. Voilà.